Mais j'ai été assez impressionné de voir nos jeunes adolescentes ce matin, les petites, vous savez, les petites Fifi et Féfé, les petites, vous savez, dans les 16 ans. Elles viennent à l'église, vous savez, vers cette, les jeunes filles, vers cet âge-là, elles veulent être jolies, vous savez, avec les, vous savez, les cheveux tout frisés sur la tête. Je les ai remarquées, à mesure que ma prédication avançait, ça descendait, un peu plus tard, il fallait qu'elles soufflent pour les écarter de leur visage. Les frisettes s'étaient toutes défaites. La petite fille de Sœur Downing et je l'ai remarqué, et la petite celle de Frère Collins, la petite, comment s'appelle-t-elle déjà? La petite Betty, la petite Betty. Je riais un peu moi-même, mais je les avais vues toutes belles, vous savez, toutes bien arrangées. Et un moment après, c'était, eh bien, vous êtes bien mignonne, mes trésors. Moi, en tout cas, je vous trouve belle. C'est vrai. Être belle, c'est avoir un bel esprit pour venir s'asseoir dans des réunions comme celle-ci et écouter l'Évangile. Voilà ce qui fait la beauté d'une jeune fille. Et je pense que n'importe quel vrai garçon qu'il vaut la peine d'épouser sera du même avis. Merci, monsieur. C'est bien. Quelqu'un est d'accord avec moi. C'est exact. Très bien. Je crois que c'est la vérité. Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Je suis tombé directement sur Daniel 9 quand j'ai ouvert ma Bible. Bon, d'habitude, je demande que tous ceux qui ont une chemise trouée n'enlèvent pas leur veston. Alors j'espère que la mienne n'est pas trouée. Mais il m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir l'enlever parce que ma chemise était trouée. Ça, oui, certainement. Mais je pense que celle-ci n'est pas trouée. Maintenant, oh, personnellement, nous, et je crois que l'auditoire pense la même chose, nous sommes reconnaissants de la présence du Saint-Esprit ce matin, et nous sommes reconnaissants de la communion fraternelle et de la présence les uns des autres. Qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse de l'onction qui descend sur la barbe d'Aaron jusqu'au bord de son vêtement. Aujourd'hui, je suis allé manger au Blue Boar. Et qui ai-je trouvé là-bas? Nul autre que Frère Bill, ici, avec Sœur Dow, qui était assis là à se régaler d'un poulet frit des plus appétissants que j'ai jamais vu. Il passait un très bon moment. Il mangeait avec un bel entrain, vous savez. Je suis monté en haut et là, j'ai trouvé une grande partie de l'assemblée. Il voulait même payer mon dîner. Ça, c'était vraiment gentil. J'apprécie. Quand je suis arrivé à la maison, Billy est venu avec une caisse de tomates que quelqu'un m'avait apportée de tout là-bas en Géorgie, cet état où il fait bien frais, là, où il fait si frais, à ce qu'on me dit, vers cette époque-ci. Et puis, j'ai rencontré un jeune homme dehors. Je sortais de mes entretiens cet après-midi. Et je suis passé ici à l'église, il y a environ une heure et demie, et il y avait ce jeune, un assez jeune homme dehors. Il a dit, j'ai dit, il fait chaud. Il a dit, certainement. Je savais qu'il venait de la Géorgie, alors il a dit, certainement qu'il fait chaud en Géorgie. Eh bien, nous essayons d'échapper à un endroit plus chaud encore, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous sommes ici. Merci beaucoup, mes amis, pour toute votre bonté. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Vraiment, qu'est-ce que je ferais sans vous? Si je n'avais personne qui m'aime, personne qui écoute le message, tout mon message ne servirait absolument à rien. Je ne peux pas le prêcher aux poteaux téléphoniques et aux arbres, ils ne le comprendraient pas. Alors, il faut des gens comme vous pour venir l'écouter. Et quand vous venez vous asseoir dans une salle où il fait chaud, comme ici, et que... Ma femme m'a dit qu'elle était presque en train de cuire là, derrière ce matin. Et quand je vois des gens et des malades parfois rester assis aux réunions comme ça, que Dieu vous donne une magnifique demeure dans la gloire. Voilà ma prière. J'espère et j'ai confiance qu'il le fera. Maintenant, voyons un peu. Mon veston, quelqu'un l'a mis ici. J'ai un peu de lecture à faire ce soir. Combien apprécient le début de ceci? Oh, si seulement il ne faisait pas si chaud, nous continuerions, nous passerions toute la semaine sur le livre de l'Apocalypse. Je l'aime tellement, je passe tout mon temps dedans. Et soyez en prière, là, pour moi, cette semaine, parce que dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je dois arriver à cela, à mettre ces semaines à leur place. Et c'est quelque chose dont je ne sais absolument rien. Alors je vais tout simplement faire confiance au Seigneur qu'il me donnera la réponse. J'ai lu ce que plusieurs hommes ont dit sur le sujet, ont écrit sur le sujet. J'ai lu les annotations du docteur Scofield, là, un grand érudit, mais il y a beaucoup de ces annotations sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Ça, c'est sûr, parce que je ne peux pas voir la chose comme ça, ou il faut que ça donne un tableau qui se tient. Or, si vous étiez en train d'assembler, disons, les morceaux d'un puzzle, et que tout de suite vous disiez, « Oh ça, ça va ici en haut. Non, je suis sûr que ça va ici en haut. » Eh bien, vous devez regarder votre modèle ici pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et alors, sinon, vous vous retrouverez avec un tableau tout embrouillé. Et si, par exemple, vous aviez un tableau qui représente un magnifique paysage de campagne, avec une vache au sommet d'un arbre en train de brouter. Ça n'irait pas, ça, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas au sommet d'un arbre qu'elle broute. Alors, c'est pareil si le Saint-Esprit ne met pas ce passage de l'Écriture à sa place. C'est là qu'on a le grand tableau de la rédemption tout entier. C'est ça que nous voulons, la vérité. Et tant que nous ne connaîtrons pas la vérité, nous laisserons ça de côté, c'est tout. Et puis, quand Dieu nous aura donné la vérité, eh bien, alors j'en parlerai. Savez-vous une chose? Je pense que frère Roy Slaughter et quelques-uns des vieux de la vieille ici, qui venaient ici il y a très longtemps, au début, pendant à peu près, je pense, pendant les 3 ou 4 premières années de mon ministère, ici au tabernacle, je ne voulais même pas prêcher sur le sujet de l'enfer, parce que je n'arrivais pas à voir si c'était un lieu ardent ou si c'était la tombe. Et chaque fois que la parole parlait de la tombe, je prenais la traduction, c'était « Hadès ». Le « Hadès », c'est la tombe. Chaque fois qu'elle parlait de l'enfer, « Hadès », la tombe. Alors, j'ai tout simplement laissé ça de côté jusqu'à ce que je sache vraiment de quoi je parlais. Et à ce moment-là, j'ai prêché sur l'enfer. Alors, quand j'ai vraiment vu la totalité du tableau, que j'ai vu ce qu'il en était. En effet, j'estime qu'un prédicateur est responsable devant Dieu de ce qu'il dit à l'assemblée, parce que ils vont vraiment s'accrocher à ça. Et donc, qu'est-ce qui arriverait si je les avais fait s'accrocher là où il ne faut pas et qu'un jour cet appui ne tienne pas le coup? Voyez? Et dans la vision que le Seigneur m'a donnée il y a quelque temps, où il y avait 6 millions, où celui qui me parlait a dit, « Tu seras jugé en premier par l'évangile que tu prêches. » J'ai dit, « Je prêche la même chose que ce que Paul et les autres ont prêché. » Et tous ces millions de voix se sont écriées, « Nous nous reposons là-dessus. » C'était réglé, voyez? Exact. Alors ce soir, je veux continuer là, pour qu'on ne s'attarde pas trop. Et maintenant, n'oubliez pas, maintenant, ce matin, j'ai quelques notes ici. Ce matin, j'ai parlé de Daniel en captivité, de Gabriel qui est venu le voir pour lui expliquer ce qui allait arriver dans l'avenir. Voilà ce que nous avons vu ce matin, les instructions sur l'avenir. Maintenant, ce soir, nous parlons des 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel. Dimanche prochain, si le Seigneur le veut, nous situerons les 70 semaines à leur place dans le temps. Et où en sommes-nous? Or, si seulement nous pouvons trouver ça, que ce soit absolument sûr et certain, alors nous saurons exactement à quelle heure nous vivons. Or, nous ne saurons pas quand il viendra. Ça, personne ne le saura. Jésus lui-même ne le sait pas. Il a dit qu'il ne le savait pas. Il a dit que ça, il n'y avait que le Père qui le savait. Même les anges ne le savent pas. Aucun de nous ne sait quand il viendra. Mais nous pouvons voir là, l'heure, le temps où nous vivons, savoir combien nous en sommes proches. Maintenant, pour faire un peu le lien avec ce qu'on a vu, étant donné que les frères enregistrent ceci, les appareils sont en marche là-bas dans la pièce. Et les bandes, bien sûr, on les envoie partout. Maintenant, dans la leçon de ce matin, après avoir récapitulé sur les chapitres 4 et 5, nous avons pris le « commencer dans le chapitre 9 de Daniel ». Et maintenant, ce soir, nous continuons dans le chapitre 9. Avant d'aborder cela, courbons la tête juste un instant et parlons à l'auteur de la parole. Notre Dieu plein de grâce, nous sommes sûrs que tu connais l'intention profonde de notre cœur. Tu sais pourquoi nous sommes ici. Tu sais que si nous sommes venus ce soir, ce n'est pas pour la simple raison que nous pensions que ce serait un bon endroit où venir, ou se délasser un peu en après-midi. Père, je ne crois pas qu'une seule personne soit ici dans ce but-là. Je crois que si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous sommes profondément sincères, honnêtes, et que nous voulons connaître l'ainsi dit le Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous aimons ta parole. Et il y a cet endroit auquel tu as pourvu pour nous, un toit au-dessus de notre tête, et ces blocs de béton. Nous te sommes reconnaissants de cet endroit. En effet, nous croyons qu'il y a une demeure au-delà du ciel, vers laquelle nous nous dirigeons. Et nous pensons à nos ancêtres qui n'avaient même pas ce privilège. Alors, Seigneur, rien qu'à l'idée de nous plaindre, notre cœur s'incline de honte. Maintenant, Père, nous te prions de nous dévoiler l'Écriture ce soir. Viens marcher à côté de chacun de nous ce soir, alors que nous avançons sur ce chemin. Parle-nous, comme tu l'as fait à ceux qui allaient de Jérusalem à Emmaüs, et qu'ainsi ce soir, une fois la réunion terminée, nous puissions rentrer chacun chez soi en disant « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» alors que nous l'entendions parler par sa parole. Bénis la lecture. Bénis mes faibles efforts, Seigneur. Ouvre ma bouche à ce qui est vrai et ferme-la à ce qui est faux. Que tu en reçoives la gloire et que tu sois glorifié dans ton peuple, afin qu'il puisse voir dans quelle heure nous vivons et que la venue du Seigneur Jésus est proche. Car nous le demandons en son nom, le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, pour faire un petit retour en arrière sur les passages de l'Écriture que nous avons pris, nous avons vu que Daniel avait été en captivité pendant 68 longues années. Pensez-y. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont leur papier et leur crayon, qui ne l'avaient pas noté ce matin, vous pouvez le noter ce soir. De l'an 606 à l'an 538 avant Jésus-Christ. Ôtez 538 de 606, ça vous donne 68 ans, pendant lesquels Daniel était resté en captif. Sans église où aller, sans prédication à écouter, rien. Mais il avait des livres, des rouleaux, ce qu'un prophète avant lui avait prophétisé. Et c'était Jérémie. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que le temps était presque écoulé, que la période de 70 ans, et Daniel croyait solennellement chaque parole que le prophète Jérémie avait prononcée. Et ce que je dis à mon auditoire ce soir, c'est « Devons-nous croire nos prophètes ?» Oui, monsieur. En effet, la parole de Dieu est venue aux prophètes. Ils ont l'ainsi dit le Seigneur. Et un vrai prophète ne s'écartera jamais de ce que l'autre prophète a dit. Ils ne feront jamais dire à la parole quelque chose qu'elle ne dit pas. Ils diront exactement ce que le vrai prophète a dit. C'est ce qui fait qu'ils sont prophètes. Alors, quand ils saisissent ce qu'il en est, ensuite ils prédisent ce qui va arriver. En sachant ceci, qu'ils ont la crainte dans leur cœur, de peur de dire quelque chose de faux qui égare quelqu'un. Nous ne voulons surtout pas faire ça. Nous voulons être absolument sûrs d'avoir la parole du Seigneur avant de dire « Ainsi dit le Seigneur ». Voyez, ça doit être un message absolu qui vient directement du trône de Dieu. Sinon, nous ne devrions jamais le dire. Donc, en étudiant les Écritures, il a vu que les 70 ans étaient presque écoulés. Alors, comme il était là depuis 68 ans, il ne restait que 2 ans encore avant que Dieu ramène son peuple dans leur patrie. Nous avons vu que pendant qu'il était en prière, un ange puissant est venu du ciel. Quelqu'un peut-il me donner son nom? Gabriel. Il est l'ange de l'Église des Juifs. Combien savent ça? C'est toujours Gabriel. Gabriel est le messager de l'Église des Juifs. Il est venu à Marie, il est venu à Zacharie. C'est toujours Gabriel. Et il est l'un des grands anges du ciel. Et n'est-ce pas qu'il a apporté à notre frère Daniel une merveilleuse salutation de la part de Dieu? Oh, Daniel, tu es un bien-aimé. de penser que Dieu vous aime. Vous vous sentiriez bien, n'est-ce pas? Même si je n'étais pas un bien-aimé, j'aimerais quand même savoir du moins un peu aimer là-haut. Pas vous? C'est sûr. D'être juste un peu, qu'il pense à moi de temps en temps, ça me donnerait envie de crier, rien que de penser que je compte pour lui. Et effectivement, nous avons l'assurance que nous comptons pour lui. Car, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place, frère. Et maintenant, nous qui étions étrangers à Dieu, il nous a maintenant rapprochés de Dieu et nous a donné le gage de notre salut, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et à l'intérieur, nous avons une foi qui nous élève au-dessus des choses du monde et nous passons droit au-dessus. C'est glorieux, n'est-ce pas? Très bien. Pendant qu'il était en prière, Gabriel est venu vers lui et ne lui a pas seulement dit qu'il ne restait que 2 ans avant qu'ils retournent dans leur patrie, mais il lui a aussi fait connaître toute la destinée de cette nation. Pensez-y, toute la destinée, tout le voyage sur cette terre. Gabriel a expliqué ça à Daniel. Il a dit qu'il avait été envoyé pour dire cette chose glorieuse à Daniel. Imaginez comment ce prophète a dû se sentir. Et il lui a dit que 70 semaines avaient été fixées sur le peuple jusqu'à la ruine. Ça, c'est le temps de la fin. Alors tout est terminé, la ruine. Il a dit, il y a 70 semaines. Certains croient que ce sont des mois, d'autres des jours, d'autres... Si ce sont seulement des semaines au sens propre, alors il n'y a qu'à peu près 2 ans et quart ou 1 an et quart. Et vous voyez, vous, c'est pour ça qu'il nous faut trouver ce qu'il en est. Si nous voulons être dans le vrai, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dans quel but? Pourquoi? Sur le peuple de qui ont-elles été fixées? Sur le peuple de Daniel, les Juifs. Et pourquoi ont-elles été fixées? Pas seulement sur Daniel, mais sur la ville sainte de Daniel. Vous voyez? La ville sainte de Daniel. Maintenant, est-ce que mon auditoire peut me dire quelle était la ville sainte de Daniel? Jérusalem. Et maintenant, nous allons considérer, peut-être que nous arriverons à voir ça ce soir. Où était Jérusalem? Qui a fondé Jérusalem? Y avez-vous déjà pensé? Qui a fondé Jérusalem? Quand a-t-elle été fondée? Nous allons y venir un peu plus tard. Qui a fondé Jérusalem? Ah, c'est une toute petite chose cachée dans un coin, mais c'est bel et bien dit là. Oui, monsieur. Qui a fondé Jérusalem et quand a-t-elle été fondée? Très bien. Et c'est là la ville sainte de Daniel. Et nous comprenons bien que cette ville, qui a été maudite depuis maintenant 2000 ans, sera reconstruite et rétablie. Et que le culte sera rétabli dans le temple, tout comme au commencement. C'est exact. Jérusalem sera là. Donc, il y aura un sacrifice, une offrande perpétuelle qui sera de nouveau offerte, tout comme au commencement. Nous devrions voir la plupart de ces choses ce soir, ou du moins une grande partie. Maintenant, mes amis, je veux que vous sachiez qu'en touchant ces points, je laisse de côté bien des semaines d'enseignement. Ça, c'est certain. Mais je les survole pour que, quand il commencera à faire moins chaud, ou un peu plus tard, quand nous aborderons les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 trompettes, toutes ces choses, je puisse alors faire des rappels en disant, vous vous souvenez des 70 semaines de Daniel? Vous vous souvenez de l'âge de l'Église, quand elle est montée, et ce qui s'est passé? Et les 70 semaines de Daniel couvrent la période qui va du départ de l'Église jusqu'au retour de l'Église. C'est cette période-là qu'elle couvre. Maintenant, pas la totalité des 70 semaines de Daniel, une partie. 70 semaines ont été fixées. Or, il y avait 6 buts à sa visite, quand il est venu lui dire ce qui allait arriver. Donc, il y avait 6 buts à sa venue. Maintenant, je pense que ce soir, nous allons reprendre les Écritures où nous en étions ce matin, alors qu'on avait vu qu'il y avait 6 buts. Nous en sommes là. Donc, nous avons vu qu'il y avait les 6 buts. l'un d'entre eux. Maintenant, prenons le chapitre 4, le verset 4, le verset 24 du chapitre 9 de Daniel. Et 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Maintenant, souvenez-vous, ça, c'est toute la durée du voyage des Israélites sur cette terre. C'est ce qui leur a été fixé. Il n'y a que 70 semaines de fixées. C'est tout le temps qui a été destiné aux Juifs. Sur ton peuple et sur ta ville sainte. Par conséquent, ces 70 semaines, ne manquez pas ceci. Elles vont révéler ce qu'il y a à partir de ce moment-là jusqu'à la fin des Juifs et aussi jusqu'à la fin de Jérusalem, jusqu'à ce qu'une nouvelle ville soit construite. Maintenant, oh, j'espère que nous pourrons vraiment approfondir ça comme il faut ce soir. Ont été fixés sur ton peuple et sur ta ville sainte. Pourquoi faire? Pour faire cesser les transgressions. Qu'est-ce qu'il lui a dit là? Il essayait de savoir combien de temps il restait. Je sais que nous sommes au temps de la fin, comme nous en ce moment. Seigneur, combien y a-t-il de gens dans l'auditoire ce soir qui croient que nous sommes au temps de la fin? Dites Amen. Merci, nous sommes à la fin. Maintenant, nous essayons de trouver, avec l'aide de Dieu, combien de temps au juste il reste. Dans quel jour vivons-nous? C'est pour ça que nous reprenons ce qu'ont dit ces prophètes et tout, pour essayer de voir où nous en sommes. Et c'est ce que Daniel a fait. Il a tourné sa face vers Dieu. Combien ont lu Daniel 9 aujourd'hui? Levez la main. Très bien. Vous avez vu sa prière, comment il a fait sa confession pour son peuple et sa confession pour lui-même. Il voulait être sûr de trouver quand ils allaient retourner, parce qu'il voulait préparer les gens à retourner. Or, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver quand nous allons monter et préparer les gens à monter, ceux qui seraient prêts. Et nous avons tourné notre face vers Dieu dans la prière et les supplications pour trouver, Seigneur, à quelle heure vivons-nous? Nous avons vu toutes ces choses qui arrivent. Nous voyons le chaos du monde. Nous voyons que le temps est proche. C'est l'Écriture est sur la muraille, tout ce que Dieu a dit. Nous entendons notre président parler d'une autre guerre pour bientôt. Nous entendons le pronostic selon lequel, au bout de quelques heures de guerre, on prédit que les nations ne seront plus que des cendres volcaniques. Et nous savons que c'est le cas. Alors nous savons qu'avant que cela arrive, l'Église doit partir. Alors, Seigneur, où en sommes-nous? Voilà la raison pour laquelle je crois qu'il va nous le faire savoir. Nous avons tourné notre face pour savoir. Maintenant, commençons par trouver. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions. Mettre fin au péché, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie, et pour oindre le Saint des Saints. C'était là les 6 buts de la visite de Gabriel. Maintenant, allons-y. Point 1. Si vous voulez le noter, vous qui avez vos crayons, point 1. Pour faire cesser les transgressions, c'est la première chose. Donc, faire cesser les transgressions d'Israël, qui a commis des transgressions contre Dieu, ce sera de détourner de Jacob les impiétés. Or, pour voir ça, prenons dans Romains, le chapitre 11 de Romains, et commençons au verset 21 de Romains 11. Maintenant, on va quoi? Faire cesser les transgressions. Romains 11, 21. Très bien. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, c'est-à-dire qui? Israël. Ne t'épargnera pas non plus. Bon, quand vous rentrerez chez vous, j'aimerais que vous lisiez le chapitre 11 en entier. Moi, je lis seulement ceci pour noter le chapitre 11 en entier et lisez-le. Ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu envers ceux qui sont tombés. est bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans la bonté. Autrement, tu seras retranché, seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés. Car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Vous voyez, il est dit qu'il viendra un temps où les nations seront retranchées et où Israël rentrera à nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage, les nations, et hanté contrairement à ta nature, nous étions contre nature, des étrangers, sans miséricorde, sans Dieu, sans aucune espérance. Et Dieu, dans sa miséricorde, pour nous donner une chance, à cause des transgressions, il a retranché Israël qui était juste et les a mis de côté. L'olivier sot, l'olivier cultivé, et il a fait entrer un olivier sauvage, contrairement à sa nature. Sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Très bien, continuons notre lecture. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée, d'Israël tombe dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, jusqu'à ce que Dieu ait fini de traiter avec ceux des nations. Israël a été aveuglé. S'ils ont sombré dans le péché et les transgressions contre Dieu, c'est parce que Dieu a aveuglé leurs yeux pour que nous puissions être greffés. Vous saisissez le verset 26 maintenant. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Dieu les a aveuglés exprès pour vous et moi. Ils ne peuvent pas voir parce que Dieu les a aveuglés. Et tout Israël, la vraie Israël, sera sauvé. Qu'est-ce que l'ange a dit? Gloire, pour faire cesser les transgressions d'Israël. Je suis venu te dire qu'il viendra un temps où les transgressions d'Israël cesseront. Dieu retranchera la branche sauvage et il greffera là la vraie branche de nouveau. Oh, parfois mon cœur se serre de voir ces pauvres gens malheureux là-bas qui ont été retranchés, qui ne savent pas où ils vont, et de penser que Dieu, dans sa miséricorde, a fait ça pour que moi, je puisse être sauvé. Il a aveuglé leurs yeux à leur propre Messie. Il a fermé leurs oreilles pour qu'ils ne l'entendent pas. Et pourtant, ils voyaient bien ces miracles. Ils voyaient bien ces miracles et les choses qu'ils faisaient. Dans Matthieu au chapitre 12, je crois, au chapitre 8 ou 12, il est dit, « Malgré tant de miracles que Jésus avait faits, ils ne pouvaient pas croire. » En effet, Dieu avait dit, « Ils ont des yeux et ne voient pas, des oreilles et ils n'entendent pas, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et que je ne les convertisse. » Mais pour nous donner une occasion, à nous, il a voilé les yeux de ses propres enfants. Il a écarté ses propres enfants de la table et les a voués au dépérissement de l'esprit pour qu'ils puissent y trouver, pour que nous puissions avoir l'occasion de vivre, pour nous donner la vie à nous. Reprenons le verset 26. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Oui, il viendra sur la montagne de Sion un de ces jours. Sur la montagne des Oliviers, ils le reconnaîtront, et tout Israël saura que c'est lui. À ce moment-là, ce sera fini pour ceux des nations. Cette branche qui a été greffée, Dieu en prendra le fruit récolté. Et cette branche sauvage sera... Et maintenant, souvenez-vous plus haut là, quand vous lirez. Il a dit, si la racine était sainte, et que cette racine était une racine sainte, les fruits qui sortiront de cette racine sainte porteront eux aussi des fruits saints. Et si cette racine était Jésus-Christ, qui est à la fois la racine et la postérité de David, si cette vie qui était en lui est montée à travers la génération juive, qu'elle leur a été enlevée, que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous, nous puissions voir, alors nos vies devront refléter le modèle de cette branche bénie. Oh oui, frère, c'est exact. C'est à dessein que Dieu les a retranchés et l'a aveuglé leurs yeux pour que nous, nous puissions avoir la possibilité de voir et nous a donné une occasion. Et avec ça, on se prend pour quelqu'un. Ici, Paul leur dit, « Prenez garde à ce que vous allez faire. Prenez garde, car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plus de miséricorde pour la branche sauvage qui est déjà ?» Alors on se promène en disant, « Moi je suis presbytérien, moi je suis méthodiste, moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste. » Ça, ça ne veut rien dire pour Dieu. Vous devez naître de nouveau de ce Saint-Esprit qui vient de la racine. Mais il est venu. Or, souvenez-vous, il ne parle pas des nations. Je fais juste mentionner ça en passant pour vous faire voir ce qui a permis aux nations d'avoir une chance. Mais il est venu pour faire cesser les transgressions, pour y mettre fin. Maintenant, si nous revenons dans Daniel, et nous allons voir dans Daniel là, nous allons voir au verset 24. Très bien. Pour faire cesser les transgressions. Pour faire cesser quoi? Pour faire cesser les transgressions d'Israël. Transgresser, c'est quoi? C'est d'aller à l'encontre de quelque chose. De commettre une transgression contre moi, c'est de me faire du tort. De commettre une transgression contre vous, c'est de vous faire du tort. Donc, Israël a fait du tort à Dieu. Et pendant cette 70e semaine, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va faire cesser les transgressions d'Israël. Faire cesser les transgressions, ce sera de détourner de Jacob les impiétés. Et alors, tout Israël naîtra de nouveau. Ils recevront tous le Saint-Esprit. Maintenant, point 2. Notez-le sur votre papier. Nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus, mais je ne veux pas me mettre à prêcher sur ce sujet-là. Je veux juste vous parler pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en est. Et quand nous arriverons aux 7 sceaux, alors vous avancerez facilement dans l'étude de l'Église, des sceaux, des fléaux, et nous saurons à quoi nous en tenir. Bien. Point 2. Mettre fin au péché. Maintenant, lisons-le encore dans Daniel. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Voilà le deuxième but de sa venue. Premièrement, c'est pour faire cesser les transgressions d'Israël et pour mettre fin au péché. À quelle occasion Israël a-t-elle péché? Où ont-ils commis leur péché fatal? Où se sont-ils séparés de Dieu? Maintenant, écoutez bien. Prenons Matthieu 24. Voici où Israël a fait son erreur fatale. Voici où elle a commis son dernier péché et la raison pour laquelle elle est dans l'état où elle est aujourd'hui. Matthieu, le chapitre 27 de l'Évangile de Matthieu. Le verset 25 du chapitre 27. Commençons vers le verset 21. Le gouverneur prenant la parole leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Maintenant, souvenez-vous, c'est Israël, là. Barabbas. Pilate leur dit, « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ ?» Écoutez-les. Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié !» Souvenez-vous, c'est leur Messie, là, dont Daniel avait dit qu'il viendrait. Vous vous souvenez de notre leçon de ce matin. Il sera retranché, pas pour lui-même, pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, alors il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Écoutez, voici leur erreur, voici leur péché. Et le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » C'est là qu'ils l'ont commis. Il mettait fin au péché pour eux. Comment pouvait-il faire autre chose que leur pardonner, en sachant qu'il avait dû aveugler leurs yeux pour que nous, nous puissions entrer? C'est comme si ses propres enfants réclamaient son sang. Ils étaient aveuglés, et ils savaient qu'ils étaient aveuglés. C'est pour ça qu'il a demandé avec larmes qu'ils soient pardonnés. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient aveugles. Ils ont été aveuglés pour nous. C'est dans leur incrédulité qu'ils ont fait ça. Mais quand ils le verront à nouveau, amen, mettre fin au péché. Le péché, c'est quoi? L'incrédulité. Ils ne croyaient pas que c'était le Messie. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'il soit le Messie. Et pourtant, il avait accompli tous les signes que le Messie devait accomplir. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Ils étaient aveugles. Alors, quand vous voyez des gens qui disent, « Je ne crois pas à la guérison divine, je ne peux pas le voir, je ne peux pas voir ça, le baptême du Saint-Esprit. » Ne vous fâchez pas contre eux, ils sont aveugles. Ils disent, « Je ne vois pas ça, le message de sa venue. Je ne vois pas ça, le baptême du Saint-Esprit. Je ne vois pas ça, la semence du serpent. Je ne vois pas ça, ces choses-là. » Ils sont aveugles, et ils ne le savent pas. Priez simplement pour eux. Bien. Dans leur incrédulité. Mais quand ils le verront, quand il reviendra, ça mettra fin à leur incrédulité. Oh là là. Prenons d'abord Genèse, chapitre 25, chapitre 45, pour en voir un type. J'ai noté quelque chose ici. Genèse 45. Pour vous qui prenez des notes, que j'aime ce bon vieil évangile. Très bien, maintenant, nous savons où nous en sommes. M'entendez-vous comme il faut au fond de la salle? Levez la main si vous m'entendez. Cette chose est un peu trop proche. Maintenant, nous allons lire un bout de ce passage de l'Écriture. Ceux d'entre vous qui n'ont pas leur Bible, je voudrais que vous écoutiez. Ceux d'entre vous qui ont leur Bible, c'est dans la Genèse. D'abord, commençons au chapitre 44, à partir du verset 27. Il s'agit de Joseph, et Joseph était un type parfait de Christ, nous le savons. Combien savent ça? Haï de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel, il avait des visions, il interprétait des songes. C'était un homme spirituel au milieu de ses frères, alors il le haïssait. Mais son père l'aimait. Jésus aussi, il était haï des églises dénominationnelles, mais il était aimé de son Père, Dieu. Pourquoi le haïssait-il? Parce qu'il était spirituel. Parce que, il racontait, il disait qu'il était un diseur de bonne aventure, un démon. Vous vous souvenez de ce que les frères de Joseph lui ont dit? Voici le faiseur de songes qui arrive. Voyez? Voyez? La même chose. Et ils ont vendu Joseph pour presque le même prix que Judas a vendu Jésus. 30 pièces d'argent. Ils l'ont jeté dans une fosse, et ils sont allés raconter à leur père qu'il avait été tué, qu'il était mort. Mais il a été sorti de cette fosse. Christ a été jeté dans une fosse, et il en a été sorti. Et de là, il est monté jusqu'au poste le plus élevé qu'il y avait sur terre. Amen. Joseph est allé à la droite de Pharaon, Et Jésus est allé à la droite de Dieu dans sa tentation, avant son élévation. Jésus, avant d'être élevé, il est passé par la tentation. Je crois que c'est le grand évangéliste Billy Sunday, là, qui a dit « Dans chaque arbre, il y avait 1 million d'anges le jour de la crucifixion », qui disait « Sors seulement une main de tes liens et fais-nous signe, nous allons changer le cours des choses ici ». Mais il ne pouvait pas le faire. Caïphe a dit « Il s'est sauvé lui-même, il ne peut pas sauver les autres ». Il ne croyait pas si bien dire. S'il s'était sauvé lui-même, il n'aurait pas pu sauver les autres. Alors il s'est donné lui-même pour sauver les autres. Vous voyez, tellement aveugle à ça. Alors il... Et quand il était là, quand il a été élevé, ou avant d'être élevé, dans sa tentation. Souvenez-vous, Joseph a été mis en prison parce qu'il était innocent. Le général romain ou le général israélite qui s'appelait Potiphar. Potiphar est parti, il est parti en voyage. Il avait une femme qui était belle, et sa femme a fait venir Joseph dans la maison pour faire quelque chose. Et il a essayé d'amener Joseph à faire quelque chose de mal. Mais il a été fidèle à Dieu. Je vous le dis, ils sont toujours là. Vous, les femmes, je vous ai crié après. Maintenant, je vais prendre votre défense pendant un instant. Voyez? La femme est un vase plus faible. Je sais bien qu'un homme ne peut pas mal agir sans qu'une femme ait mal agi. Mais les hommes qui savent ça, vous les hommes, qui savez que vous êtes un fils de Dieu et qui abusez d'une femme, honte à vous. Peu importe ce qu'elle fait, elle est un vase plus faible. Et vous le savez, si elle se met à se conduire de façon déplacée, prenez-la par la main et parlez-lui comme à une sœur. Vous êtes un fils de Dieu, ne faites pas ces vilaines choses. Regardez Joseph, il était un exemple pour vous. Et alors, la femme de Potiphar, cette belle femme, respectable, la plus haut placée, une des femmes les plus haut placées du pays, elle l'a supplié, elle a tout fait pour le convaincre. Il s'est détourné, elle l'a attrapé, elle a essayé de le serrer contre elle. Elle s'est débattue au point qu'il a même laissé sa tunique, et il s'est enfui loin d'elle. Oui, monsieur. Et quand il est revenu, ils ont raconté un mensonge à son sujet. Ils ont dit qu'il était venu pour la violer, et qu'elle avait laissé sa tunique là. À cause de ça, il a été mis au cachot. Mais dans le cachot, Dieu était avec lui, peu importe où on le mettait. Il était un type du fils de la prospérité. Tout ce que Joseph faisait, réussissait. Et quand Jésus reviendra dans le millénium, voilà pourquoi les déserts fleuriront comme une rose. Tout ce qu'il fera, réussira. Il est le fils de la prospérité. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Partout où il y a Jésus, la bénédiction est là. Alors, faites-le entrer dans votre cœur et soyez bénis. Et alors, donc, nous voyons que Joseph a été mis en prison. Et dans la prison, il y avait deux hommes. L'un a été perdu et l'autre sauvé. Quand Jésus a été tenté sur la croix, un brigand a été perdu et l'autre a été sauvé. Quand il a été élevé, il est allé à la droite de Dieu. Quand Joseph a été élevé, il est allé à la droite de Pharaon. Et personne ne pouvait parler à Pharaon sans d'abord parler à Joseph pour obtenir une autorisation. Et quand Joseph quittait le palais, oh là là! Quand Joseph quittait le palais, on sonnait de la trompette et des hommes couraient devant lui en disant « Fléchissez le genou, Joseph vient !» Amen. Et quand Jésus quittera la droite de la majesté dans les lieux très hauts, les trompettes sonneront. Tout genou fléchira et toute langue confessera. Jésus vient. Certainement. Mais si, et souvenez-vous, quand il a été rejeté de ses frères, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une épouse des nations. Il a pris une épouse égyptienne. Quand Jésus a été retranché de ses frères, là-bas, les Juifs, il a épousé une épouse des nations. Mais voilà que des années plus tard, après qu'il a eu des enfants, Éphraïm et Manassé, il avait une famille. Voilà qu'un jour, ses frères sont venus le visiter. Regardez bien, nous connaissons l'histoire. Il avait mis ce petit objet là-dedans pour qu'il reparte avec. Et il faisait semblant qu'il ne savait même pas parler leur langue. Il se faisait interpréter en hébreu, alors qu'il était hébreu lui-même. C'était leur frère qui était venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Il était un prince puissant. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit les malades parmi eux et tout. Ils ne savent toujours pas qui il est, ce Messie. Commençons au verset 27 du chapitre 44. Ton serviteur, notre père, nous a dit, « Vous savez que ma femme m'a enfanté, ma femme m'a enfanté deux fils. L'un d'eux étant sorti de chez moi, c'était Joseph, celui-là même auquel ils étaient en train de parler. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. » Ils avaient amené un petit Benjamin là-bas, son petit frère. Savez-vous qui Benjamin représente? Ce nouveau groupe de Juifs vraiment authentiques qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000, cette race qui est en train de se former. Pas les escrocs de Wall Street. Là, non, non. Ceux-là, c'est plutôt de la chair à canon. Ceux-là, ce ne sont pas des Juifs. Ceux-là, ce ne sont pas des Juifs. Les vrais Juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de venir de là-bas, qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus-Christ. Maintenant, retourne vers moi, et ton père, et mon père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. La vie même de Dieu est attachée à Israël. Il est marié avec elle. Nous allons le voir dans quelques minutes, si le Seigneur le veut. Il est marié avec Israël. Sa vie est attachée à elle, tout comme moi je suis attaché à Madame Branham, au fond là-bas, ma femme, et comme vous, vous êtes attaché à votre femme. Votre vie est enveloppée dedans. Dieu est marié avec Israël. Et qu'est-ce que c'était? Jacob a dit, « Mon âme est enveloppée et attachée à cet enfant. » Et en voyant que l'enfant n'y est pas, Joseph voulait garder l'enfant, vous savez, nous connaissons l'histoire. Et il mourra, son papa, et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre père. Écoutez cette supplication que Ruben lui adresse là. Car ton serviteur a répondu de l'enfant en disant à mon père, si je ne ramène pas, ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant. Oh là là, voyez-vous, il est là, en présence même de son frère Joseph. C'est Joseph, et il ne le reconnaît pas. Oh, attendez seulement que le millénium commence, frère. Maintenant, à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, écoutez-le confesser qu'il est Seigneur. Et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon père. Il le suppliait, il offrait sa propre vie. Ces Juifs, ils se tiendront là, les mains tendues. Regardez bien là, 45, le verset. Écoutez bien, ne le manquez pas. Quand Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Frère, ça, c'est quand il sera mis fin au péché, l'incrédulité sera dispersée. Il s'écria et il fit sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Qu'est-ce que c'est? Même sa propre femme est retournée dans le palais. Oh là là, l'épouse dans la gloire pendant que Jésus revient. Nous allons voir ça ici pour se faire connaître. Il éleva la voix en pleurant. Joseph ne pouvait vraiment plus se contenir. Il a crié. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Jusque dans le palais, ils ont entendu crier Joseph. Or ça, c'était un type de Jésus qui rencontre les Juifs, alors qu'il sait que c'est lui qui les a aveuglés, pour que nous puissions avoir une chance. Mais quand il reviendra vers eux, le péché d'Israël sera terminé. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. » Que pensez-vous que Jésus va dire? « Je suis votre Messie. » Je suis celui que vous avez crucifié. Mon père vit-il encore ? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Oh, il faut que je m'arrête un instant ici. Prenons Zacharie au chapitre 12. Maintenant, prenez avec moi le livre de Zacharie, le chapitre 12 de Zacharie. Peut-être que je prends un peu trop de temps en me mettant à prêcher là-dessus, mais j'espère que non. Je veux tellement que vous le saisissiez. Zacharie, prenons le chapitre 12 de Zacharie et voyons ce qu'il va dire là, quand il se tiendra devant ses frères. Zacharie 12 et le verset 10. Mettre fin au péché. Donc, très bien. Chapitre 12, verset 10. Remarquez, maintenant ici, il parle du reste d'Israël. Le siège de Jérusalem, la bête et les armées sont supprimées, et ainsi de suite. Maintenant, tout arrive à sa fin. C'est presque le millénium, ici. Le millénium est prêt à commencer tout de suite. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitations de Jérusalem un esprit de... quoi? Grâce. Amen. Grâce étonnante. Sur la maison, les habitants de Jérusalem, la ville sainte de Daniel, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Écoutez ça, quel deuil ce sera quand il se tiendra là, qu'il se fera connaître à eux comme Joseph l'a fait. Écoutez. Et en ce jour-là, le deuil sera si grand à Jérusalem, comme le deuil d'Hadad, je n'arrive pas à prononcer ce nom-là, H-A-D-A-D-R-I-M-O, Hadad-Rimon, dans Megiddon. Dans le pays, il y aura le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, et la famille de la maison de Nathan séparément, et leurs familles à part, la maison de Lévi, et les femmes et les familles à part, et Siméon et les leurs à part, et toutes les autres familles, chaque famille et les femmes à part. Ils auront tellement honte d'eux-mêmes, quand ils seront là, qu'ils verront celui-là même qu'ils ont crucifié et renié, qui se tiendra là, leur précieux Joseph à eux. Il y aura un tel deuil, et ils diront, « D'où viennent ces cicatrices que tu as ?» Il a dit, « De la maison de mes amis. » Vous voyez ce que je veux dire? Pour mettre fin au péché, à l'incrédulité. C'est pour ça qu'il vient. Et en cette 70e année de Daniel, 70e semaine plutôt, il vient pour mettre fin au péché, le supprimer. Vous comprenez maintenant? Le premier, qu'est-ce que c'est? Pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché. Point 3, pour expier l'iniquité. Pour ceux d'entre vous qui prennent des notes. Et j'avais à peu près 6 autres passages de l'Écriture là-dessus, mais je vais les sauter parce qu'il fait chaud. Nous ne voulons pas prendre trop de temps. Je veux en voir le plus possible, mais sans vous retenir trop longtemps. Très bien. Pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est faire ce qui est mal, comme ils l'ont fait à la croix. Il a fait une expiation, mais elle ne leur sera pas appliquée. Elle ne leur a pas été appliquée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aveuglés et qu'ils ne pouvaient pas le voir. Et pourquoi étaient-ils aveuglés? Vous dites, « Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est parce que je suis aveugle. Vous êtes volontairement aveugle. » Eux, ils étaient aveugles parce que Dieu les avait aveuglés. Mais vous, si vous êtes aveugle, c'est volontairement que vous l'êtes. Il n'y a pas d'expiation pour vous. Si vous ne croyez pas ce que je suis, a dit Jésus, vous mourrez dans votre péché. C'est exact. Maintenant, reprenons Zacharie au chapitre 13. Maintenant, écoutons ici, expier. Maintenant, ou j'aurais voulu que quelqu'un entende ça, mais peut-être que le Seigneur arrangera ça de toute façon. En ce jour-là, le docteur Scofield, ce qu'il donne ici dans ses notes, ou comme titre de paragraphe, c'est « Le reste d'Israël ». Le reste d'Israël repentant est dirigé vers la croix pour expier l'iniquité. L'iniquité, c'est quand vous avez fait quelque chose de mal alors que vous saviez que vous ne deviez pas le faire. Si je conçois l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'exaucera pas. Maintenant, dans Zacharie, chapitre 13, commençons au premier verset. « En ce jour-là, une source sera ouverte dans la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et l'impureté. Une maison sera ouverte. » Allez-y, nous pourrions le lire au complet. Je veux que vous le notiez pour que vous le lisiez. Mais bon, ce que j'ai noté ici, c'est de commencer au verset 6 et de lire jusqu'au verset 10. Très bien, maintenant lisons et voyons de lire jusqu'au verset 9 plutôt. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as à la main, il répondra, c'est que je... Voyons un peu. Répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Épée, lève-toi sur le pasteur et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les petits. Or, Jésus a cité ce passage de l'Écriture. Voyez-vous? Frappe le berger et que les brebis se dispersent. Mais remarquez le paragraphe suivant. Il l'avait seulement cité jusque-là. Mais remarquez ce qui est dit dans la phrase suivante, dans la partie suivante. Et je tournerai ma main vers les petits. Qu'est-ce? Le groupe de Benjamin qui est en train de se former maintenant. Je tournerai ma main vers les petits. Frappe le berger. Israël, d'abord Israël a frappé le berger, ce qui a dispersé les brebis de par le monde entier. Mais Dieu a dit, je tournerai ma main pour aller chercher ces petits au dernier jour. Quand l'iniquité aura été expiée, Israël sera sauvé, ils le seront tous. Prenons dans Ésaïe, le chapitre 66 d'Ésaïe. Et lisons un petit instant. Nous allons voir ce que Dieu dit au sujet du salut d'Israël. Combien de temps il faudra pour sauver Israël? Regardez bien comme ce sera rapide. Dans Ésaïe, au chapitre 66 et au verset 8, si vous voulez le lire au complet, c'est très bien. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître un jour, en un jour? À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Dès que Sion a vu que c'était leur Messie, elle est née de nouveau en un jour. Expier les péchés et expier l'iniquité, l'impureté. Oh là là! Ils avaient fait ce qui était mal, ce qui était mauvais. Leur iniquité a été expiée. Point 4. Pour amener la justice éternelle. Voilà la quatrième raison pour laquelle il est venu. La quatrième chose qu'il est venu faire. Pour amener la justice éternelle. Pour mettre fin au péché, pour expier et pour amener la justice éternelle. Une fois les transgressions d'Israël terminées, une fois la transgression d'Israël, maintenant nous allons, je voudrais que vous saisissiez ceci, parce que quand nous parlerons de la femme et du dragon qui a été précipité, c'est à ce même passage de l'Écriture que vous vous référerez de nouveau ici. Prenez-le bien en note. Une fois la transgression d'Israël terminée, Satan, qui est leur accusateur, est notre accusateur, Satan sera scellé dans l'abîme. Quand quoi? Quand la justice éternelle sera amenée, quelque chose qui ne peut pas avoir de fin, tout ce qui a été la cause de l'injustice sera alors supprimé. Prenons Apocalypse au chapitre 20 et au verset 13, un instant, et lisons là un instant. Apocalypse 20 et 13. Non, excusez-moi, c'est Apocalypse 1 à 3. Je ne voyais pas le petit signe entre les deux. La sueur me tombe dans les yeux. Apocalypse chapitre 20. Et voyons un peu. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait les clés de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus la nation jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Produire une éternelle, amener la justice éternelle. Satan qui se retrouve dans l'abîme. Et quand il fait ça, qu'il scelle le diable qui a séduit les gens. Maintenant, revenons prendre dans Habacuc au chapitre 2. Habacuc chapitre 2. Et là, nous allons voir pourquoi il a scellé le serpent ancien et dans quel but ça a été fait et ce qui arrive tout de suite après qu'il est scellé. J'aime ça, pas vous? Ça nous amène à la connaissance de quelque chose. C'est Habacuc chapitre 2 et verset 14, je crois, que je veux lire. Quand ceci arrivera, regardez bien, car la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Oh là là! Autrement dit, quand l'ennemi aura été enfermé, ce sera la fin du péché. La justice éternelle sera amenée. Satan sera scellé dans l'abîme et la connaissance de l'Éternel couvrira la terre comme les eaux couvrent le fond de la mer. Amen. Gloire à Dieu. C'est en route, frère. C'est en route. Les femmes seront des dames et les hommes seront des gentlemen. Amen. Quand la connaissance du Seigneur remplira terre, mer et ciel. Et oh, mon cœur crie, soupire après ce jour de délivrance, où notre Jésus reviendra sur la terre. Amen. Bien. Bon, et à ce moment-là, ce sera le millénium. C'est le temps du millénium, le temps où la ville doit être construite. Point 4. J'ai encore à peu près 6 passages de l'Écriture, mais nous allons nous dépêcher. Quand nous y reviendrons, là, je prendrai ces autres passages, mais c'est juste pour vous donner l'idée générale. Point 5. Pour sceller la vision et la prophétie. Vous voyez, l'ange est venu pour sceller la vision et la prophétie. Je n'aime pas dire ça, mais un grand auteur dont je lisais l'écrit là-dessus l'autre jour, il avait vraiment tout mélangé ça. Il disait ce que c'était. Bon, rien que pour vous montrer la stupidité. Oh, excusez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire, pardonnez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire, vraiment pas. Non, un homme sans onction, vous voyez? Cet homme disait, vous voyez ici que les visions et les prophéties ont toujours été données à l'Église juive. Et il disait, ça signifiait qu'à partir de l'époque de Daniel, qu'après Daniel, il n'y aurait plus ni vision ni prophétie. Il disait que toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, que on prétend avoir des visions et des prophéties, que tout ça, c'est du diable. Que les visions et les prophéties, ça n'existe pas. Frère, il y a eu des douzaines de prophètes après Daniel. Il y a eu Jean-Baptiste, il y a eu Jésus-Christ, il y a eu tous les prophètes du Nouveau Testament. Il y a eu des visions, il y a eu des anges. Voyons, comment un homme peut-il dire une chose pareille? Mais vous voyez, ça part d'un motif égoïste, d'essayer d'imposer quelque chose aux gens, d'en faire une petite doctrine d'église, ou quelque chose de tout à fait insignifiant, et que les gens prennent ça pour la réalité. Et si les gens n'ont pas le Saint-Esprit, ils seront séduits par ça. Or, ne prenons pas ce qu'a dit un homme. Allons, il n'y a pas un seul passage de l'Écriture pour prouver ça. Alors, comment pourrais-je l'accepter? Eh bien, voyons ce qu'il en est réellement de ce scellement. Regardez bien, c'est pour ça qu'il est venu, pour sceller la vision et la prophétie. Maintenant, reprenons donc le livre de Daniel, où nous étions tout à l'heure. Dans le livre de Daniel, nous allons voir exactement ce qu'il y est dit. Alors, prenons dans Daniel au chapitre 12. Bon, pendant que nous cherchons Daniel 12, là, nous pourrions commencer à lire à partir du... Quand vous rentrerez chez vous, j'aimerais que vous le lisiez, à partir du verset 1er. Lisons-le donc du verset 1 au verset 4. « Et en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, qui tiendra pour les fils de ton peuple. Or, ceci se passe au temps de la fin. » Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis la nation. Ça, c'est quand l'Antichrist, ce cavalier du premier sceau, sort, qu'il entre en scène. Jusqu'à ce temps-ci, pas à l'époque où Titus a pris les murailles de Jérusalem. Ça, ce n'était qu'un seul endroit. Regardez bien quand cet Antichrist, ce prince qui devait venir, regardez bien quand lui, il viendra. Jusqu'à ce temps-là, et en ce temps-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Alléluia, ton peuple, Israël, sera écrit dans un livre. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour être un objet d'horreur éternelle. Voyons, comment est-ce que ça aurait pu être quand Titus a pris les murailles de Jérusalem? Comment est-ce que ça aurait pu? Impossible! Vous voyez, il parle du temps de la fin, à la résurrection. Pas vrai? Bien. Et les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue, et ceux qui ont détourné, qui ont enseigné la justice à la multitude, les étoiles à toujours. Écoutez, le voici, le vrai, le véritable scellement. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce? Oh, alléluia! Est-ce que mon auditoire le voit? Cette révélation de Jésus-Christ et de sa puissance, de sa venue, du temps de la fin, elle a été scellée jusqu'à maintenant. C'est ça qu'il est venu faire. C'est caché aux érudits. Ce n'est pas étonnant qu'il cherche à placer ce scellement là-bas, dire que ça correspond à pas de prophète et tout ça dans le passé. Ça ne tient pas debout. Mais la vision, cette vision-ci, elle a été scellée jusqu'ici, jusqu'à maintenant. Et c'est pour ça que je prends par la foi que Dieu va révéler ces 70 semaines. Amen. Scelle-le, il a dit, jusqu'au temps de la fin. Cache ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour sceller la vision et la prophétie. Daniel avait prophétisé ces choses. Il les avait vus en vision, et l'ange est descendu pour sceller la vision et pour sceller la prophétie. Ils peuvent la lire, mais ils ne peuvent pas la comprendre jusqu'au temps de la fin. Le temps de la fin, le temps de la fin, qu'est-ce que c'est? La fin de la 70e semaine, au moment où ce prince, cet antichrist, sera révélé, à ce moment-là se proclamant lui-même Dieu. Comment savons-nous que c'est scellé jusqu'à ce moment-là? Daniel vient de terminer. Ceci, c'est le dernier chapitre de Daniel. Sœur Simpson me disait cet après-midi, elle disait, « Frère Branham, j'ai lu le livre de Daniel au complet. Je n'en savais pas plus long après l'avoir lu, quand j'ai eu fini, que quand j'ai commencé. » Voici ce qu'il y a, Sœur Simpson, si vous êtes ici ce soir. Je crois que je la vois assise là-bas. Dans la roulotte, je n'ai rien dit. Je me suis tu. Parce que je me suis dit que j'allais peut-être y venir. Mais la vision que Daniel avait eue là-bas près du fleuve a été scellée jusqu'au temps de la fin. C'est ce que je vais faire, je vais le lire là, voyez? Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Et moi, Daniel, je regardais, et voici deux personnages qui se tenaient, l'un d'un côté du fleuve, et l'autre de l'autre côté du bord du fleuve. Et il dit à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve, « Jusqu'à quand la fin de ces merveilles ? » Maintenant, écoutez bien. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était au-dessus des eaux du fleuve. Et il leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux, et jura par celui qui vit éternellement que ce serait pour un temps déterminé, du temps et une moitié de temps. Là, nous arrivons en plein dedans. Du temps et une moitié de temps. Maintenant, regardez bien, quand nous arriverons aux 70 semaines de Daniel, vous verrez à quoi ça correspond. C'est là que le mystère sera révélé. Très bien. Du temps et une moitié de temps. Et lorsqu'il aura, il, un pronom personnel, là, l'Antichrist, achevé de briser la force du peuple saint, ça, c'est quand il brise son alliance au milieu de la semaine. Toutes ces choses seront accomplies. Amen. Et moi, j'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et il dit, va, Daniel, car ces paroles sont cachées et scellées jusqu'au temps de la... Oh, n'oubliez surtout pas ça. Jusqu'au temps de la fin, plusieurs seront purifiés et blanchis et affinés, et les méchants agiront méchamment. Et aucun des méchants ne comprendra, mais les sages comprendront. Le message du temps de la fin le révélera, le dernier âge de l'Église. Gloire! Et voilà! Oh là là! Rien que d'y penser, ça me fait trembler. Le mystère, ces choses sur lesquelles le monde des Églises ferme les yeux en disant « ça ne tient pas debout ». Le mystère de qui Jésus-Christ était. Pas une troisième personne, pas la deuxième personne, pas la troisième personne, mais la personne de Dieu. Tous ces autres mystères de Dieu seront révélés, parce que c'est écrit ici, dans ce livre, et ce sera révélé à la génération du temps de la fin. Dans les séminaires, les écoles et les dénominations, ils ne peuvent pas plus le voir que les Juifs ne pouvaient voir que Jésus était le Messie. Ce n'est pas étonnant qu'ils essayent de vous faire passer pour fous. Ce n'est pas étonnant qu'ils pensent que vous êtes insensés. Ce n'est pas étonnant qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous ne picorez pas avec eux. C'est parce qu'il y a une puissance et une vision derrière, une parole de Dieu qui a été révélée pour préparer l'Église pour l'enlèvement et le retour à la maison. Oui, plusieurs courront ça et là, et la connaissance augmentera, certainement. Bon, quelle autre chose serait connue, aussi? Regardez aujourd'hui les Églises. Nous y voilà, j'espère que ça ne blessera pas, mais il faut que je le dise. Se proclamant, en ce jour-là, un Antichrist paraîtra. Maintenant, souvenez-vous, quand on arrivera au sceau, l'Antichrist, là, il poursuit sa chevauchée tout au long des sceaux. Daniel en a parlé ici, du prince qui viendra. Il serait retranché, Jésus serait retranché pour faire l'expiation pour les gens. Mais ce prince-là qui s'élèverait, qui amènerait l'abomination à causer la désolation, c'était Rome sous Titus. Et cette fois-ci, c'est un prince issu de Rome qui le fera. Il sera révélé dans les derniers jours. Écoutez bien, se proclamant lui-même Dieu, comme le Saint-Esprit nous en avertit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Prenons-le, 2 Thessaloniciens. Comme ça, vous n'aurez pas ma parole, mais la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons voir. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 12. Voyons voir. Commençons plus haut, au verset 7. Car déjà le mystère de l'iniquité est à l'œuvre. C'est Paul, ici, qui parle par le Saint-Esprit. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Le « celui » ici, c'est qui? Est-ce que quelqu'un le sait? Le Saint-Esprit, celui qui le retient. Et alors, quand se révélera l'impie? Quand? Juste au moment où le Saint-Esprit sera enlevé. Et en ce moment, il se prépare à partir. Pourquoi part-il? Il emmène l'Église avec lui. Se révélera. C'est Paul qui parle par l'inspiration. L'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'impie, bien sûr. L'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous sommes la plus grande Église. Nous avons ceci. Tous ensemble formés une union, voyez. Nous sommes les plus grands des prodiges mensongers. Et avec toute de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, et afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui prennent plaisir à l'injustice. Vous saisissez? Oh là là! Bon, donc, Paul qui parle. Le temps où le sceau de Dieu est dévoilé. Son esprit, son nom, sa grâce, tous ces autres glorieux mystères qui sont proclamés en ce moment, les dispositions pour que son Église parte dans l'enlèvement, c'est le déversement du Saint-Esprit qui a produit ceci. C'est ce qu'il a fait dans les derniers jours. Maintenant, voyons un peu. Est-ce qu'on a le temps de voir le dernier? Le sixième, oindre le Très-Haut. Oh là là, voilà le point. La dernière chose qu'il doit faire, c'est quoi? Maintenant, reprenons donc dans Daniel pour voir tout ce qu'il doit faire ici. 70 semaines. Qu'est-ce qui doit être accompli pendant cette période-là? Très bien. Ont été fixés sur ton peuple et ta ville sainte pour faire cesser les transgressions des gens, mettre fin au péché pour les gens, pour expier leur iniquité et amener la justice éternelle pour les Juifs, pour sceller la vision et la prophétie jusqu'au temps de la fin et pour oindre le Saint des Saints. Voilà les six raisons de sa venue. Maintenant, pour oindre le Saint des Saints. Ce que je vais dire maintenant va peut-être sembler un peu étrange pour d'autres un instant, pour beaucoup d'entre vous qui êtes des enseignants. Mais bon, attendez un petit instant là, de voir à quoi on en arrive. Il s'agit ici d'oindre, non pas un homme. Jésus est déjà oint, pas vrai? Dans le livre des Actes, il est dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit et qu'il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant les malades et ainsi de suite. Jésus est déjà, il est le Messie, et le Messie veut dire « loin », pas vrai? Mais ici, au temps de la fin, il doit oindre le Saint des Saints. Le Saint des Saints, qu'est-ce que c'est? La façon dont je le vois, et je crois que je peux le prouver par l'Écriture, c'est coindre le Saint des Saints. Ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant le millénium. Maintenant, écoutez, et vous verrez comment j'en arrive là. Il est décrit dans Ézéchiel au chapitre 4, les... Non, je veux dire au chapitre 43, les versets 1 et 6. Prenons dans Ézéchiel pour voir comment il dépeint le millénium, comment ils vont oindre le... Ézéchiel 43, et on va en lire un petit bout ici, pour voir ce qu'il va faire pendant le millénium, là, cette onction. Dans Ézéchiel 43, bon, et maintenant commençons au verset 1, et jusqu'au verset 6. Bien sûr, vous pourrez le lire au complet quand vous serez rentrés chez vous, ceux d'entre vous qui prennent des notes. Ézéchiel 43, il me... Maintenant, regardez bien. C'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe qui, n'importe quel lecteur qui est au courant sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel, jusque vers le chapitre 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé sur terre. N'importe qui sait ça, vous voyez. Quand la gloire de l'Éternel le remplit, et ainsi de suite, comme ça. Maintenant, nous allons juste décrire le temple au chapitre 43, les versets 1 à 6. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. La voix était pareille à la voix des grandes eaux, et la terre resplendissait de la gloire. Cette vision était semblable à celle que j'avais eue. Lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve du Kébar. Et je tombais sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte qui était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enleva et me transporta dans le parvis intérieur. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un me parler depuis la maison et un homme se tenait près de moi. Oindre, oindre ce temple pour le règne du millénium. Maintenant, notez, dans le Lévitique, maintenant regardez bien comment il a été consacré dans le Lévitique. Maintenant, si nous prenons dans le Lévitique, nous allons voir que Moïse a oint le temple. Prenons-le donc, pendant que nous y sommes. Nous avons bien le temps. Alors, prenons le Lévitique pour voir le moment où Moïse a oint le temple. Dans le Lévitique, au chapitre 8. Oh, j'aime vraiment comparer ces écritures entre elles. Pas vous? Comme ça, vous avez une idée de ce que nous cherchons et de ce que nous faisons. Bon, et vous êtes tous conscients que nous prenons seulement un passage par-ci, par-là, là-dessus. Donc, le chapitre 8 du Lévitique. Et ici, j'ai noté le verset 10. Notez Lévitique 8, 10. Voyons un peu. Moïse prit l'huile d'onction, il versa de l'huile d'onction, il oignit le sanctuaire et toutes les choses qui y étaient, et le sanctifia. Il en fit sept fois l'aspersion sur l'autel. Il oignit l'autel et tous les ustensiles, et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit, afin de le sanctifier. Moïse, dans le désert, qui a sanctifié ou oint le tabernacle d'adoration pour les enfants d'Israël pendant leur voyage. Il a été oint. Maintenant, dans 2 Chroniques, prenez-le, et nous allons voir la dédicace, le moment où le Saint-Esprit a pris sa place dans le tabernacle. Regardez bien ce qui s'est passé là. Dans 2 Chroniques, chapitre 5, et commençons au verset 13. 2 Chroniques, chapitre 5, en commençant au verset 13. Et lorsque les trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir la trompette, les cymbales et les autres instruments, en célébrant l'Éternel et en chantant, car il est bon et sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs restèrent. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Dieu est entré dans le sanctuaire qui devait être oint et qui lui avait été remis pour que les gens viennent y adorer. Donc, non pas pour oindre ton lieu saint, mais pour oindre ce lieu, le saint des saints. et nous voyons que c'est la Nouvelle Jérusalem qui est ce lieu, le Saint des Saints. Et l'onction sera sur la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. L'onction sera sur eux. Bon, et quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il ait été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau, parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli par la suite, et il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint. Il avait été rétabli et relevé, alors il n'y avait plus à loindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable, et ça l'est encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il oindra le Saint des Saints, non pas ton lieu saint, mais le Saint des Saints. Mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, gloire, c'est terminé pour elle à ce moment-là. L'onction du Saint des Saints, ce sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé, que la résurrection s'est produite, que les Juifs sont retournés, que Christ et son épouse sont arrivés, que les Juifs, les 144 000, sont scellés, que le millénium a eu lieu. Il y aura une onction quand ce lieu, le Saint des Saints, sera oint. Le lieu saint, le lieu très saint, est le Saint des Saints. Ce lieu, le Saint des Saints, c'était le sanctuaire où Dieu demeurait, entre les chérubins. Et cette fois, c'est Christ qui demeurera dans ce lieu, le Saint des Saints, avec l'onction sur lui. Et là, il n'y aura pas besoin de soleil, car l'agneau au milieu de la ville sera la lumière. Dans cette ville, le soleil ne se couchera jamais, comme le disait le brave oncle Jim. Il ne se couchera jamais, parce que Christ sera cette lumière, celui qui est oint. Et le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant 1000 ans. Jérémie 3, 12 à 18 inclus. Lisons-le. Dans Jérémie, au chapitre 18, je crois. Oui. Non, au chapitre 12, excusez-moi. Le chapitre 12 de Jérémie, et commençons au Jérémie 3, excusez-moi. C'est Jérémie 3 que j'avais noté ici en étudiant, quand j'étudiais là et que le Saint-Esprit me guidait d'un endroit à l'autre, et je me suis dépêché de noter ça du mieux que j'ai pu. Jérémie 3 et les versets 12 à 18 inclus. Lisons-le. Va et crie ces paroles vers le nord et dis, reviens, Israël l'infidèle, dit l'Éternel. Je ne ferai pas peser sur vous un visage irrité, car je suis bon, dit l'Éternel. Je ne garderai pas ma colère à toujours. Seulement, reconnais ton iniquité, car tu t'es rebellé contre l'Éternel ton Dieu, et tu as tourné çà et là tes chemins vers l'étranger sous tout arbre vert. C'est ce qu'ils ont fait à l'est, à l'ouest, dans toutes les nations. Voyez? Et vous n'avez pas écouté la voix. « Ma voix, dit l'Éternel, revenez, écoutez ceci. Revenez, fils infidèle, dit l'Éternel, car moi je vous ai, E-P-O-U-S-E-S, je vous ai épousé. Leurs yeux ont été aveuglés, parce que j'ai laissé une chance aux nations. Mais revenez, car je vous ai épousé. » Et je vous prendrai un d'une ville et deux d'une famille. Ce ne sont pas tous ceux qui se disent juifs qui entreront, mais c'est ce groupe élu qui entrera. Ce petit Benjamin qui s'est présenté devant Joseph là-bas. Ce groupe qui est pris dans toutes les nations, un d'une ville et d'une famille. Et je vous ferai venir à Sion. Et je vous donnerai un pasteur selon ton cœur. Et il vous paîtra avec connaissance et avec intelligence. Et il arrivera que, quand vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne dira plus la l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Et elle ne montera plus au cœur. Et on ne s'en souviendra pas. Et on ne la visitera pas. Et on ne fera plus cela. Dans ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. puisqu'il sera là, voyez-vous. Et toute la nation se rassemblera, alléluia, vers elle. Et le nom de l'Éternel à Jérusalem. Et elles ne marcheront plus suivant leur propre penchant dans le mauvais de leur cœur. C'est alors que cette ville sera ointe. C'est alors que la nouvelle Jérusalem sera ointe. Et toutes les nations de la ville. Dans Apocalypse chapitre 22, il est dit que les portes ne se fermeront pas la nuit, parce que là, il n'y aura pas de nuit. Et tous les rois de la terre apporteront leur honneur et leur gloire dans cette ville. Ses murailles seront de jaspe et de sardoine, de 12 espèces de pierres. Et les 12 portes seront d'une seule perle, une par porte. Il n'y aura pas besoin de lampe là-bas. Il n'y aura plus la lumière du soleil, parce que l'agneau qui est au milieu de la ville sera la lumière. Et il conduira son peuple dans la vie éternelle. Il y aura là deux arbres, un de chaque côté du fleuve, et ils serviront à la guérison de la nation. La voilà, celle qui est ointe, elle viendra. La ville sainte qui descend du ciel, d'auprès de Dieu, qui vient sur terre. Voyons maintenant ce qui va se passer pendant cette période-là. Oh, aimez-vous ça? Prenons Ésaïe 65 un petit instant. C'est vraiment trop bon pour qu'on passe par-dessus. C'est vraiment trop bon pour qu'on le laisse de côté. Il fait peut-être un peu chaud, mais continuons à avancer. Ésaïe 65. Écoutez ce qui va se passer pendant cette période-là. Et posez-vous donc la question, amis pêcheurs, de savoir si vous pouvez vous permettre de manquer ça. Ésaïe 65. Commençons vers le verset 17. Écoutez bien, tous maintenant. Ceci se passe pendant le millénium, quand le Saint des Saints est oint. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Oui, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem. Je vais créer Jérusalem. Ça, c'est la nouvelle Jérusalem. Pour l'allégresse et son peuple pour la joie. L'onction, qu'est-ce que c'est? La joie de l'Éternel. Créer Jérusalem pour la joie et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Le roi sur le trône, sur la majesté royale du trône éternel, et le peuple éternel avec une joie éternelle dans une ville éternelle. Oh là là! Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et un pêcheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire quand vous mourrez et que votre fils prend votre place. Bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront des œuvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Cette glorieuse onction derrière le chérubin, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Pouvez-vous vous permettre de le manquer? Non. Prenez donc juste un peu avant, là, encore Ésaïe qui parle, au chapitre 11, du verset 1 au verset 9. Écoutez encore ce qu'il dit ici. Quand il a une vision, après avoir vu les femmes, comment elles se comporteraient dans les derniers jours. Ésaïe 11, au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton qui naîtra de ses racines. C'était qui? Christ, de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance et crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, ni sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera contre leur iniquité sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Les justes seront saints du flanc, et les fidèles la ceinture de leurs reins. Et le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Ça, c'est le bouc. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse, ou le veau, ou le lion et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit est un même gîte. Et le lion, comme un bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toutes mes montagnes saintes, car la terre sera remplie de la connaissance, comme le fond de la mer par l'eau qui le couvre. Ça, c'est dans la nouvelle Jérusalem. La nouvelle, là. Le rejeton, ici, dont il est question, c'est le rejeton de David. Il est à la fois le rejeton et la postérité. Donc, après ceci, l'épouse apparaît. Après les 70 semaines, l'épouse apparaît. Dans Apocalypse, au chapitre 19, les versets 1 et 16. Elle arrive avec son époux, le roi puissant. Oh là là, je ne sais pas si on va pouvoir tout voir ou pas. On y est, alors, eh bien, lisons-en donc une partie au moins. C'est là que l'épouse arrive, après ceci. Voyez, une fois le millénium commencé, c'est là que Christ revient avec l'épouse. Bien, de 1 à 16, au chapitre 19. Après cela, après cette tribulation, après les malheurs, après les sceaux, après les fléaux, après que Satan a été précipité, après que le millénium ait commencé, regardez bien, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire, l'honneur, la puissance sont au Seigneur notre Dieu, parce que tes jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par ses fornications, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Ça, c'est la vieille église prostituée. Sa fumée monte. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant « Amen, Alléluia !» Et la voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse. Écoutez, nous y voilà, Église. Après qu'elle est montée au chapitre 3, la voici qui vient. Voyez, et maintenant le verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit d'un fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia, regardez bien. C'est là qu'il y a les noces de l'agneau. La voici qui arrive. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. La voici qui arrive, les deux, l'épouse et l'époux. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et je tombai aux pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de ton compagnon de service, tes frères, et ont le, tes frères, et ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Christ, de Jésus, est l'esprit de la prophétie. Puis je vis le ciel ouvert, et un cheval blanc. Oh là là! Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et juge et combat justice. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. Il a été couronné, quoi? Roi des rois. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement blanc, teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Qui était-ce? Jésus. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. Gloire, la voici qui vient. De sa bouche sort une épée aiguë pour frapper la nation. Les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi de rois et Seigneur de seigneurs ». Qu'est-ce qu'il y avait eu? Son peuple venait de le couronner, « Roi de rois et Seigneur des seigneurs ». Il revenait à son saint temple, loin de la présence de Dieu, pour vivre et régner avec son Église pendant tout le millénium. Amen. Elle fait son apparition avec le roi puissant, pour prendre sa place à ses côtés. Le nouveau temple royal oint. Alors, les six buts d'Apocalypse 6:1 à Apocalypse 19:21 sont accomplis. Écoutez, maintenant, pour terminer, les sept sceaux, les sept trompettes, les sept coupes, les trois malheurs, la femme dans le soleil, le diable ou le dragon rouge qui est précipité, tout cela arrive pendant ce temps-là, au cours de la période de la grande tribulation. Ne l'oubliez pas, toutes ces choses se produisent pendant ce temps-là. Mais voici les six buts de sa venue. Le croyez-vous? Quel moment glorieux attendent ceux qui aiment le Seigneur. Je vous le dis, mes amis, nous ne pouvons pas nous permettre de manquer ça. Quoi que vous fassiez, ne manquez pas ça. Assurez-vous bien. Maintenant, dimanche prochain, si le Seigneur le veut, je veux apporter, s'il veut bien m'aider, montrer exactement où chacun de ces sept jours, où ils ont eu lieu, en introduisant la même chose qu'aujourd'hui, et placer ces sept périodes, sept semaines, 70 semaines, à l'emplacement exact du sanctuaire juif, et montrer exactement où nous vivons ici à la fin, si le Seigneur le veut. L'aimez-vous? Pourriez-vous vous permettre de manquer le ciel? Nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il vient faire? Ce qui va arriver en premier? Avant que Jésus revienne sur terre, qu'est-ce qui va arriver en premier? L'Église va être quoi? Enlevée. Est-ce que Jésus va venir sur terre, aller se promener au cimetière, serrer la main à papa et à maman, nous parler à tous ici et puis monter? Non. Ça va se passer comment? Le « voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restez » 2 Thessaloniciens chapitre 5. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne ferons pas obstacle ou ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Car la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous serons enlevés en un instant, en un clin d'œil. C'est pendant cette période-là que se termine l'âge de l'Église. Ensuite, ici sur terre, Dieu commence à traiter avec les Juifs. Il y aura deux prophètes. Au chapitre 11, nous allons y venir. Deux prophètes oints, comme Élie et Moïse, et je pense que c'est eux. Ils feront tomber de grandes malédictions après avoir vu qu'ils se sont organisés et que Rome a rompu son alliance, ce prince. Au milieu de la 70e semaine, elle rompra son alliance avec Rome, ou Rome la rompra avec Israël. Et à cause de ça, l'abomination commencera à se répandre partout. Et c'est là qu'il y aura la grande inondation, quand le reste des nations, la Vierge endormie, le dragon, Rome, a lancé de sa bouche de l'eau pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. C'est Rome qui va faire ça. Une confédération d'églises les rassemblera dans une organisation et fera entrer les juifs dans cette confédération, les ramènera au culte dans leur propre temple de nouveau, selon l'ainsi dit le Seigneur de la Bible, ils auront leur église à eux. Maintenant, ils sont quoi? Je viens juste de le saisir à l'instant, c'est tout frais. Maintenant, ils sont une nation reconnue, pas vrai? Seulement, ils n'ont pas encore leur culte dans le temple. Et quand ils établiront le culte dans le temple, l'église sera partie. Dieu traitera alors avec les Juifs en tant que nation. À ce moment-là, quand ils seront entrés dans cette confédération, Rome la rompra au milieu de la 70e année. 3 ans et demi, il rompra cette alliance avec eux et il fera en sorte que l'abomination qui cause la désolation se répande jusqu'à la fin. Alors, il persécutera les deux, les protestants et les juifs. Pendant cette période-là, ces deux prophètes se lèveront et ils maudiront la terre, de sorte qu'il ne pleuvra pas au jour de leur prophétie. Ils feront descendre le feu du ciel et tout le reste. Attendez seulement, il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre ici qui sont en réserve. Oh, quel Dieu glorieux, quel Père rempli de miséricorde. Mes amis, permettez-moi de vous dire ceci en tant que votre pasteur. Vous ne vous rendez pas compte des privilèges que vous avez. Vous ne vous en rendez pas compte. Beaucoup de grands hommes, beaucoup de saints, des milliers d'hommes saints sont morts au cours des années passées, des hommes remplis de l'Esprit qui auraient aimé voir le jour où vous vivez. Vous et moi, profitons-en. Vers quoi d'autre pouvons-nous tourner nos regards? Après ceci, que pouvons-nous faire? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver? Il nous faut aller quelque part. Vous ne pouvez pas toujours rester ici. Vous pouvez tondre votre gazon. La semaine d'après, il faut de nouveau le tondre. Oui, deux fois d'ici là. Vous pouvez élever vos enfants. Vous leur donnez à manger à midi. À l'heure du souper, ils ont encore faim. Vous leur donnez à manger à l'heure du souper. Ils ont de nouveau faim le lendemain matin. Vous leur achetez une paire de souliers. S'ils sont comme les miens, au bout d'à peu près 2 ou 3 mois, vous leur en achetez une autre paire. Vous leur achetez des vêtements ce mois-ci. Dans 1 mois ou 2, vous leur achetez de nouveaux vêtements. Voyez, il n'y a rien qui dure, il n'y a rien qui soit stable, il n'y a rien qui tienne. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles, elles ne passeront jamais. Le temps n'est que changement rapide, rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. À la fin de notre voyage, alors que nous courbons la tête. Si vous n'avez jamais pris sa main, venez donc le faire maintenant. Jeune fille, tu es une jolie fillette en ce moment. Tu as de beaux cheveux, tu as des petites joues roses. Mais tu sais, le moment où elles auront perdu leur couleur est aussi proche que demain. Qui sait si, la semaine prochaine, la vermine ne sera pas en train de ronger ces belles petites joues roses dans la terre. Jeune frère, tu es fort, tu es bien musclé, tu es plein d'ambition. Mais dans peu de temps, c'est aussi proche que demain, ces beaux cheveux bouclés vont se mettre à tomber et ceux qui te resteront vont devenir gris. Tes larges épaules carrées vont s'affaisser et la vermine va ronger tes bras et ta chair. On te portera pour te mettre en terre. J'ai vu bien des choses depuis bientôt 31 ans que je suis derrière cette chair. J'ai vu des choses tristes, j'ai vu des choses glorieuses. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie, pourtant j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues, j'ai vu des mères qui mendiaient pour avoir un morceau de pain. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un homme, un être humain, qui aurait dû être un fils de Dieu, en train de mourir sans connaître Dieu. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait, « Je ne laisserai pas ma vache pratiquer le genre de religion qu'il a, lui. » Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante, d'environ 22 ans, elle hurlait, « Faites venir ce prédicateur !» Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, « Vous arrivez trop tard, frère Branham, elle est morte il y a à peu près 5 minutes. » J'ai dit, « Est-ce que je peux la voir ?» Elle m'a dit, « Elle vous appelait en hurlant. C'était ses derniers mots. Faites venir ce prédicateur, frère Branham. » Son mari était là, elle criait, « Dites une prière pour elle, dites une prière. » J'ai dit, « C'est trop tard maintenant. » J'ai rabattu la couverture. Elle avait de grands yeux bruns. C'était une femme ravissante, avec des petites taches de rousseur sur le visage, les cheveux auburn, très attirantes. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Elle avait les yeux complètement exorbités, comme ça. Et naturellement, ses intestins et ses reins avaient travaillé. C'est ce qui, ça arrive à la plupart des gens quand ils meurent. Elle était étendue là, dans cet état, la bouche ouverte et les paupières à moitié rabattues sur le brun de ses yeux. Je ne l'oublierai jamais. Ce cantique-là m'est venu à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde, la beauté, l'éclat. J'ai été à côté d'un homme, tout près, ici, à Port Fulton, il se mourait. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui, ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, « Enlevez votre bras autour de cette dame. » Il a dit, « Je la conduis à Dieu. » J'ai dit, « Pas avec votre bras autour d'elle. » Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi, il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir, peu de temps après, il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux et il a dit, « Ne priez pas pour moi, frère Bill, je suis perdu, je suis fini. » Il a dit, « Tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. » Un jour, j'étais tout près d'ici, à l'angle là-bas, auprès d'un homme qui m'avait appelé à son chevet au moment de sa mort. Il a dit, « J'ai toujours voulu faire telle et telle et telle chose. » Il a dit, « Mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour ne pas aller à l'hôtel. » Il a dit, « Frère Branham, priez que Dieu laisse ma petite fille réparer les choses que j'ai faites. Peut-être qu'elle, elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. » J'ai dit, « Ce n'est pas possible, frère. Les choses que vous auriez pu faire, c'est perdu. » J'ai été à côté d'un homme, je l'ai vu lutter contre des démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit, avec des chaînes autour du cou. Il disait, « Ne les laissez pas m'attraper !» Il hurlait, il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, « Il est là, vous ne le voyez pas, il vient me prendre !» Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait de vastes granges toutes remplies de foin, remplies de blé, des beaux chevaux de course. Une année avant ça, il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux et brûlé son foin. Et cet homme est mort avec un genre de sort sur lui, en se débattant pour écarter les démons de sur lui. Et puis, un vieil ami à moi, gloire, là-bas, il était arrivé au bout du chemin. J'ai dit, « Vous vous en allez, papa ?» Il a dit, « Ça y est, Billy. » J'ai dit, « Comment est-ce ? » Il a dit, « Tout va bien. » Il a dit, « Fais venir mes enfants à côté du lit. » Il a posé ses vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants et les a bénis. Il a dit à ses deux fils, il a dit, « Soutenez mes mains, tenez-les levées, comme Josué et Caleb l'ont fait. » On se demandait ce qu'il allait dire. Il a dit, « quel jour heureux, depuis que Jésus a lavé mes péchés. Il m'a appris à veiller et à prier, et à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devrons en arriver à certaines de ces choses. » Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce qu'on peut avoir de mieux. Je ne le lui reproche pas, il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses. Maintenant, levons les mains en chantant. Maintenant, levons-nous et tournons-nous vers quelqu'un pour leur serrer la main. Nous allons continuer la réunion quelques instants. Mais je voudrais que vous vous tourniez pendant que nous chantons encore un couplet de ce cantique. N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Dites Amen. Tous ceux qui l'aiment, dites gloire au Seigneur. Tous ceux qui croient que vous allez à cette ville carrée, levez la main. Oh, un instant avant de continuer à jouer. Vous aimez ça, n'est-ce pas? L'aimez-vous? Maintenant, n'oubliez pas, dimanche matin prochain, à 9h30, et nous essayerons, si le Seigneur le veut, de terminer à temps pour pouvoir prier pour les malades. Dimanche matin prochain, à 9h30. Écoutez bien ce couplet. Maintenant, je remets la réunion au pasteur, Frère Neville, qui va dire quelques mots pour terminer ce qu'il peut avoir à dire.